France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Au menu ce soir, Bruno Le Maire qui souhaite que l'État puisse acquérir les activités souveraines du groupe Atos, spécialiste de la dissuasion nucléaire, le groupe actuellement en grande difficulté financière. Quels enjeux face aux puissances étrangères? La dissuasion nucléaire dans l'actualité aussi, avec ses propos d'Emmanuel Macron qui veut l'inclure dans la réflexion sur la construction de la défense européenne, ce qui vaut au chef de l'État de très nombreuses critiques de l'opposition. Au menu également les annonces du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour lutter contre la criminalité organisée, avec la création d'un parquet national dédié et d'un véritable statut du repenti inspiré du modèle italien. Et puis des manifestations pro-palestiniennes qui continuent dans les universités aux États-Unis. En France, la mobilisation concerne notamment le campus de Sciences Po Paris. Quel parallèle entre les deux mouvements? Pour discuter, analyser, débattre, ce soir, Rachel Garabal-Carcel, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à 20 minutes, Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil, à vos côtés Daïk Audoui, bonsoir Daïk.
Bonsoir Victor, bonsoir tout le monde.
Journaliste à France Info Télé et Jean-Christophe Ploquin, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Rédacteur en chef de La Croix, c'est parti pour une heure de débat. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce donc ce dimanche avoir envoyé au géant informatique français Atos une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités souveraines du groupe. C'était donc ce soir sur LCI.
J'ai déposé ce week-end une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités de souveraineté d'Atos. C'est l'agence des participations de l'État qui est sous mon autorité, qui va mener cette opération. Donc nous avons manifesté notre intérêt pour acquérir toutes les activités souveraines d'Atos.
Et éviter ainsi que les activités stratégiques pour la France ne passent dans les mains d'acteurs étrangers. Voilà ce que dit Bruno Le Maire. On rappellera qu'Atos, en pleine tourmente financière, possède notamment des super calculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, alors c'est d'abord un groupe informatique, hein, principalement Atos, et effectivement c'est l'un des géants du secteur qui est très actif dans tout ce qui est services informatiques, mais de fait ils ont aussi des activités qui relèvent, comme l'indiquait le ministre, notamment les supercalculateurs qui sont des calculateurs avec des puissances de calcul énormes qui rentrent en jeu donc dans la dissuasion nucléaire. Et donc là on est sur un cas finalement un peu classique où l'État français avec ses compétences régaliennes intervient finalement dans le champ finalement du marché pour essayer de protéger des intérêts de souveraineté de la France. C'est clairement un échec pour le groupe Atos, qui est un groupe qui est en difficulté, principalement pour une question d'endettement à la fois très important et de capacité de rembourser ces dettes qui sont insuffisantes. Par ailleurs, voilà, c'est un groupe qui rassemble énormément de compétences et il y avait des négociations qui étaient en cours, notamment avec Airbus, pour racheter un certain nombre d'activités d'Atos. Il y en avait d'autres.
Bruno Le Maire d'ailleurs a dit espérer que l'État ne soit pas seul sur.
C'est ça. Il y a le fameux milliardaire tchèque Kretinsky aussi qui était en discussion et puis les uns après les autres finalement ont abandonné les négociations et donc. Finalement, Atos se retrouve un peu dans la seringue, c'est-à-dire avec des échéances auxquelles le groupe ne peut pas faire face. Et donc, l'État intervient avant qu'il soit trop tard pour sécuriser donc un périmètre relatif à l'industrie de défense.
Dossier stratégique, dossier aussi éminemment politique, Daïk Audoui.
Oui, absolument, parce que quand Emmanuel Macron parle de réarmement, et encore aujourd'hui, on va en parler juste dans quelques minutes, d'assurer la souveraineté en matière de défense pour l'Europe, c'est très compliqué de laisser échapper les données que peuvent avoir cette entreprise et le savoir-faire qu'elle peut avoir à une puissance étrangère qui d'ailleurs ne serait peut-être pas européenne. Mais c'est pas nouveau, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale en octobre, il y avait un amendement qui avait été déposé par un député PS, Philippe Brun, qui réclamait cette nationalisation des activités de stratégie d'Atos, et ça avait été voté à l'Assemblée, notamment avec les voix des LR. Simplement, comme c'était dans le budget, et comme il y a eu un 49-3, le 49-3, il a écrasé tous les amendements qui avaient été faits, et on avait repris uniquement le texte initial.
Et pourquoi ça revient maintenant?
Et parce que on est dans le contexte d'Emmanuel Emmanuel Macron, alors qu'il parle de réarmement à ses voeux, que là il annonce encore une fois l'Europe de la défense, enfin c'est plus compliqué que ça, mais quand même c'est ce qu'il a un peu annoncé lors de sa conférence de presse jeudi, vous ne pouvez pas envoyer un signal contraire. Sauf que là vous êtes contraint d'intervenir, sauf que ça coûte un petit peu d'argent, si j'ai bien compris, hein, éventuellement d'acheter les activités stratégiques d'Atos, alors que vous recherchez par ailleurs des économies.
Émilie Zapalski.
Moi je trouve ça très intéressant parce que on a un gouvernement qui depuis un moment fait de l'attractivité de la France vis-à-vis des investissements étrangers une force, ce qui est la réalité. Si on pèse plus parce qu'on attire des investissements étrangers, c'est bien. Mais on voit bien avec ce dossier qu'il faut veiller à quels investissements étrangers, qu'est-ce qu'on laisse partir aux mains des étrangers et qu'est-ce qu'on souhaite garder. On avait eu l'impression que pendant le Covid, on avait compris qu'il y avait des risques, notamment dans les chaînes de valeur, vous savez, de se dire, bah, si on dépend de trop de nombreux pays pour les médicaments ou pour d'autres choses comme ça, on est coincé en temps de crise. Et on voit bien qu'on a du mal encore à voir quelle est l'étendue qu'il faut protéger et puis
Parce qu'on est sur un secteur beaucoup plus sensible.
Voilà, fois. Et puis comme l'a dit Daïk, là, ça intervient exactement au moment où Emmanuel Macron dit la souveraineté en matière nucléaire, de dissuasion, de défense, il faut la garder. Donc il y a un espèce de réveil. Mais moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles on devrait faire beaucoup plus attention. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aidées pour faire intervenir des investisseurs étrangers et on a tendance à laisser un petit peu dilapider ça. Donc entre la valeur que ça représente et la perte de souveraineté, il va falloir qu'on voit ça. Il y a déjà eu des éléments dans la loi Pacte pour réduire un petit peu les investissements étrangers qui seraient stratégiques, qu'on garderait en France. Mais je pense qu'il y a une réflexion et je pense que c'est bien que le gouvernement se rende compte de ça, même si c'est opportuniste parce que c'est le dossier que lance actuellement Emmanuel Macron, c'est quelque chose de très très important, sans être nationaliste ou vraiment mettre trop de frontières sur le plan économique, mais quand même de veiller à certains secteurs qui sont très importants
pour
nous.
Réflexion globale et annonce qui intervient après celle effectivement d'Emmanuel Macron. Jean-Christophe Ploquin, vous voulez rajouter un mot ?
Juste pour donner un petit exemple, c'est la France donc est une puissance nucléaire, elle entretient des armes nucléaires, elle ne pratique plus d'essais nucléaires, donc elle ne peut plus tester en réel les armes qu'elle développe. Et les supercalculateurs d'Atos, parmi d'autres, finalement, servent à faire en laboratoire, en quelque sorte, à simuler, en quelque sorte, les nouvelles technologies nucléaires déployées par la France. Donc on est vraiment au cœur du cœur du cœur de la défense française.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Les annonces de Bruno Le Maire dont on parlait à l'instant sur Atos qui rejoignent une autre actualité sur le nucléaire. Mettons tout sur la table, dit Emmanuel Macron, interview dans la presse, les journaux du groupe EBRA, le président qui propose d'inclure les armes nucléaires dans le débat sur l'Europe de la défense en construction. Plus de critiques dans l'opposition qui lui reproche de brader la souveraineté nationale. Un chef de l'État français ne devrait pas dire ça, estime le candidat républicain aux européennes François-Xavier Bellamy. L'ami Macron embrouille tout, il sème le doute sur la position française, juge de son côté l'insoumis Bastien Lachaud. Discours plus mesuré chez l'écologiste David Cormand, c'était ce matin sur France Info.
Dire on va mettre au pot commun l'arme nucléaire française, de fait, dans les faits, c'est déjà le cas. Si un des 27 pays de l'Union européenne était attaqué par le jeu des alliances, on serait amené à utiliser l'arme nucléaire. Après, il y a un autre aspect qui, comme jusqu'au départ de la Grande-Bretagne, il y avait deux pays dans l'Union européenne qui disposaient de l'arme nucléaire. Maintenant, il n'y a plus que la France. Donc si on pouvait discuter du partage de la charge de l'entretien de la dissuasion nucléaire...
Et des coûts, donc, oui.
Là, c'est une autre question. Et je pense qu'il y a aussi cette idée, peut-être, dans ce que dit le président de la République.
Bon, le moins que l'on puisse dire, Rachel Guerra-Valcarcel, c'est que cela fait parler.
Oui, ça fait parler, mais je trouve qu'on est dans un cas typique du débat français de réaction assez pavlovienne, je trouve, des oppositions. La scène internationale est en train de se remodeler, on le dit tout le temps, au moins depuis la guerre en Ukraine, peut-être même depuis l'élection de Donald Trump en 2016. Clairement, la France, elle va devoir se poser la question de qu'est-ce qu'elle fait de sa doctrine nucléaire. Et c'est d'ailleurs un débat que certains voulaient mettre de l'avant, notamment les Insoumis, lors de la discussion sur le projet, sur la loi de programmation militaire. C'était au printemps dernier. Évidemment que si les États-Unis se retirent d'Europe, il va falloir se poser la question de savoir s'il y a un parapluie nucléaire français. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Honnêtement, je n'ai pas la réponse.
Ce que vous dites finalement, c'est comme on est dans le contexte des européennes, il y a une opposition qui est systématique.
Je pense que c'est tout le temps, en fait. Et notamment sur les questions étrangères, parce que ça ne coûte pas très cher quand vous êtes dans l'opposition de dire « Ah, c'est pas bien ce que fait le président de la République. C'est un endroit du débat public où les oppositions sont particulièrement pavloviennes, je trouve, ces dernières années.
David Koudou, est-ce que ça rappelle pas cette annonce, celle récemment faite par Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes possibles en Ukraine?
Avec le même émoi, on avait compris en février dernier que ça pouvait être des soldats français qui iraient se battre, et là on peut croire qu'on peut fournir des armes nucléaires à des pays européens, voire peut-être même leur permettre d'en construire. Et l'Élysée a insisté auprès des journalistes ce matin en disant que, attention, il y a eu des comptes rendus tronqués, et rappelle l'entièreté de l'interview d'Emmanuel Macron, qui a bien parlé de plusieurs pistes. Mm-hmm. Il fait tout mettre sur la table, la défense antimissile, les armes à longue portée, et le nucléaire, et il précise bien... Pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine, là il s'agit de l'Allemagne. Mais voyez, l'Élysée a été obligée de renvoyer aux journalistes ce matin qui allaient
une sorte de correctif ou de...
Pas correctif, mais de rappeler. Regardez, il faut lire en entier la notice et pas simplement... voilà. Et donc, bon, c'est le même problème que pour cet envoi pour au mois de février dernier, qui là a été un passage oral, quoi, parce que là dans l'écriture en général c'est relu, voilà. Mais après c'était un échange, c'est pas une interview en bonne uniforme, c'est la retranscription d'un échange qu'il a pu avoir
avec des jeunes Européens
dans un journal. C'est pas une interview directement entre journalistes et
Émilie Zapalski, c'est la suite justement du discours de la Sorbonne avant-hier et il y a trois jours.
Oui, oui, mais c'est surtout l'intention, parce que peut-être vous dites, oui, en effet, l'opposition a des réflexes pavloviens de cris, etc. Mais il y a aussi une intention politique qui est un peu grossière depuis le début là de la campagne sur les élections européennes. Le camp présidentiel, on peut pas dire qu'il brille, et ils ont beaucoup de mal. Emmanuel Macron essaie d'utiliser qui la fin de vie, qui l'Ukraine et qui la défense.
Alors là, on est quand même dans le sujet des élections européennes.
Là, il a fait un débat, il a fait un discours jeudi qui n'a pas fait beaucoup d'écho, parce que c'est vrai qu'il était long. Je ne sais pas si vous avez tout écouté.
Près de 2 heures.
C'était très difficile de tenir jusqu'au bout. Mmh. Il y avait des choses intéressantes, mais c'était très dur. Et je ne pense pas que ça soit ça qui fasse redécoller la campagne de Valérie Ayer. On le voit bien, puisque d'ailleurs ça a baissé et on voit Glucksmann monter et le RN qui continue à caracoler en tête. Je pense qu'Emmanuel Macron, il essaie de trouver une idée pour marquer les esprits, pour dominer et surpasser en fait les élections européennes, comme il l'a fait en 2022 avec son costume de chef de guerre qui a très bien fonctionné, qui était normal, mais dans lequel il s'est bien installé. Il veut faire la même chose là. Ça marche pas. Ça marche pas et il est obligé. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant quand il parlait de défense stratégique européenne jeudi. Il en rajoute une couche qui est beaucoup bien au-delà.
Il l'a déjà abordé dans son discours.
Mais c'est risible. Enfin, comme Daïk le dit, il y a l'Élysée derrière toujours qui rame pour dire ah, attention, pas trop au sol. Attention, c'est pas les armes nucléaires. Enfin, c'est un peu grossier. Moi, je suis désolée, je suis dans la communication. C'est vrai que les grosses ficelles marchent bien, mais là, c'est tellement grossier et c'est pas, ça n'atteint plus son but. On connaît Emmanuel Macron, on voit. Par contre, moi, j'y vois un danger parce que c'est vrai qu'on a quand même une escalade dans les mots depuis quelques mois. Je dis pas que c'est tout stratégique politique pour les élections européennes. Il y a évidemment quelque chose qui est normal que l'Europe reprenne sa place dans une géopolitique où on n'existe plus, où on n'a plus tellement de poids, mais je trouve qu'il emploie des termes et des manières un peu extrêmes.
C'est un jeu dangereux, Jean-Christophe Ploquin ?
Non, moi, au contraire, je trouve que c'est vraiment... sur le nucléaire, il n'y a pas assez de débat en France. C'est vraiment un sujet dans lequel, pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est beaucoup l'armée qui est sur le nucléaire. Il y a EDF. Enfin bon, il y a évidemment beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. Mais c'est rarement dans le débat public ce qu'on fait nous Français de la dissuasion nucléaire. Et je trouve, au contraire, moi, je trouve que je fais vraiment une différence avec effectivement l'épisode envoi des troupes au sol. Là, je pense qu'on est vraiment dans la continuité, au contraire, d'un débat qui est mené à très haut niveau entre les Français, les Britanniques, les Allemands et les Polonais maintenant. Donc à très haut niveau avec un groupe de pays européens qui commencent effectivement, qui sentent bien qu'il faut aborder les sujets importants de la défense européenne. Et quand vous êtes la France et que vous avez... cette dissuasion nucléaire, très naturellement, vous êtes amené à en parler. Et les autres vous posent des questions sur « Bon, mais vous nous parlez de défense européenne et vous-même vous promouvez l'idée de défense européenne. Mais dites, votre bombe nucléaire, vous en ferez quoi ? Est-ce que vous l'utiliserez pour nous protéger ?» Et donc, moi, ça me paraît tout à fait naturel que le président de la République, comme il dit, mette tout sur la table. On est à un moment où, de fait, il faut aborder des sujets. Les réponses ne viendront sans doute pas avant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. C'est des enjeux très très lourds. Vous vous rendez compte, déclencher la bombe atomique parce que l'Allemagne serait menacée. Est-ce que l'Allemagne le veut? Est-ce que la France le veut? Personne ne sait.
C'est ce que j'avais demandé à Rachel Garabal. Personne ne sait. Le débat national.
Mais voilà, il faut en parler.
Réaction nationale pour l'instant. Il faudra que le débat devienne européen.
C'est certain. Non, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, pardon. Évidemment, on peut discuter de l'exécution, si je puis dire, des prises de parole d'Emmanuel Macron. En même temps, tout le principe, c'est de garder cette ambiguïté stratégique. Oui. Alors, ça n'a pas fonctionné sur les troupes au sol, puisque visiblement, c'était pas concerté avec ses alliés. Mais enfin, comme le dit David Cormand ce matin sur votre antenne, en fait, c'est déjà le cas. Il y a déjà un doute sur le fait que la France pourrait éventuellement utiliser l'arme nucléaire si un pays européen de l'Union européenne est attaqué, puisqu'il y a déjà une clause de défense mutuelle, même hors OTAN.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Nous parlions tout à l'heure des journaux du groupe EBRA. C'est dans la Tribune Dimanche qu'Éric Dupond-Moretti a choisi de formuler des propositions pour mieux lutter contre le crime organisé. Le garde des Sceaux qui annonce ainsi la création d'un parquet national dédié sur les modèles des parquets financiers et antiterroristes, ainsi qu'un véritable statut du repenti, comme cela existe par exemple en Italie. En France, une loi existe déjà, mais pour le ministre de la Justice, eh bien, elle ne fonctionne pas.
On a une loi sur les repentis. Elle date de 2004.
Qui marche pas très bien.
Ah, qui marche pas du tout. Mmh. Le décret d'application a été pris en 2014, 10 ans plus tard. Mmh. C'est-à-dire que on a tergiversé et c'est une litote. Ça a été utilisé 20 fois. Moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens, qui historiquement ont lancé un combat acharné contre la mafia, la pieuvre. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce que ils sont complices d'une certaine façon, oui. Soit ils ont la trouille.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, sur BFM aujourd'hui, sur ce nouveau statut de repenti. Mélisa Palski, vous soutenez aussi cette piste?
Je pense que tout ce qui peut être intéressant et qui fonctionne ailleurs, c'est une chose. Mais encore une fois, vous allez dire que je parle beaucoup de communication du gouvernement. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal d'opérations qui sont mises en avant, Place Net XXL, à Marseille, etc. Qu'on voit bien qu'on a beaucoup de mal à traiter toutes ces questions de trafic de drogue. Donc oui, les idées, si elles sont bonnes, si elles fonctionnent ailleurs, je pense que c'est bon. C'est toujours la même question que le ministre de la Justice exprime très bien, c'est l'application, c'est comment on applique après les lois. Après, rajouter des choses, si ça ne s'applique pas, c'est vain. Mais je pense qu'il faut avancer sur ces sujets, parce que c'est terrible pour certains quartiers.
Oui, il y a une question toute bête, Daekodou. Est-ce que ce modèle vanté en Italie, il est transposable directement comme ça en France?
Sans doute.
Non, mais, question piège.
Mais un des responsables justement du statut de repenti qui s'est exprimé sur France Info et qui dit qu'actuellement les remises de peine sont pas assez fortes pour susciter de prendre des risques, parce que quand vous êtes repenti, il faut après protéger votre famille, faut avoir l'assurance que ça vaut la peine par rapport aux remises de peine et qu'ensuite vous serez protégé de façon efficace vous et votre famille. Donc c'est quand même une...
Donc là, les propositions du ministre, a priori, vont plus loin, c'est-à-dire une meilleure protection, un changement d'identité, etc.
Et pour dire si ça marche, faut donc vraiment... C'est ce que dit l'un des responsables de la situation actuelle, enfin voilà, qui dit, il faut... Voilà. Après, c'est le timing aussi, j'en reviens à ce que dit Émilie. C'est annoncé... Là, il lance un ballon d'essai en octobre.
Oui, c'est pour
donc
octobre.
On sent, c'est aussi qu'Éric Dupond-Moretti a besoin d'exister, pas forcément individuellement, mais c'est le volet l'intérieur d'Armanin... Place Net, il a volé justice, avec cette
encore
idée...
Encore une fois, à quelques semaines des européennes.
Et que c'était que Place Net s'attaque aux petits dealers, qui sont donc sur place, mais que là, Dupond-Moretti, avec ce qu'il propose, il faut s'attaquer aux gros dealers, qui sont les responsables du trafic, donc du crime organisé, et qu'eux ne sont pas forcément en France, d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour l'idée, ça ne s'adresse pas au même public que Place Net, c'est-à-dire qu'on essaie de toucher... tout l'éventail du trafic.
Et on entendait d'ailleurs Éric Dupond-Moretti expliquer que ce qui financerait la protection de ces repentis, ce serait les milliards d'euros de saisie d'avoirs criminels. Cela va pousser Rachel Garabal-Cartel à encore plus de politique du chiffre, en quelque sorte.
Ben voilà, je pense que c'est la question sous-jacente, c'est-à-dire que avec cette nouvelle mesure, le gouvernement a le mérite de la cohérence sur la lutte contre la drogue, c'est-à-dire que c'est une réponse sécuritaire, ultra-sécuritaire, partout, tout le temps. La question, c'est de savoir, et ça, on n'a toujours pas la réponse, est-ce que c'est la bonne approche pour en finir avec le trafic de drogue ? clairement, cette majorité-là... Pardon, cette majorité-là va dans ce sens-là, mais la vérité, c'est que ça fait 40 ans qu'on va dans ce sens-là et qu'on n'en est pas venu à bout. Alors, je sais pas si une légalisation est une solution miracle, on a vu qu'il y avait des effets de bord et des effets délétères aussi, mais de toute évidence, la solution sécuritaire n'a pas l'air de fondamentalement beaucoup mieux marcher.
Jean-Christophe Ploquin, en quelques mots sur ce volet sécuritaire, cette approche sécuritaire.
Je pense qu'il faut aussi situer ça au niveau européen, là aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans des pays voisins, que ce soit l'Espagne, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Allemagne aussi, l'Italie, on en a parlé. Enfin, l'enjeu de la drogue, c'est un enjeu massif. Et on sait que des réseaux criminels articulant à la fois des réseaux européens et des réseaux latino-américains sont aujourd'hui extrêmement implantés, infiltrés en quelque sorte dans l'économie finalement européenne.
Ça veut dire qu'il ne faut pas multiplier les politiques nationales, mais essayer de construire quelque chose à plus grande échelle.
Ce que je vois, c'est que aux Pays-Bas, par exemple, il y a aussi une action très ferme qui est menée dans la lutte contre le trafic de drogue. Et j'imagine, Dupond-Moretti ne l'a pas précisé, mais j'imagine que cette action française s'inscrit aussi dans une action européenne plus large, parce que pour lutter contre les mafias et contre les réseaux criminels transnationaux, évidemment que c'est en transnational aussi que ça se passe, même si l'enjeu, effectivement, d'un durcissement de la législation et d'un durcissement de la répression des trafiquants est aussi très important. Après, on souligne juste aussi qu'il n'y aurait pas de trafic s'il n'y avait pas de consommateurs. Et donc, je crois qu'en France, 5 millions de consommateurs de cannabis, 600 000 consommateurs de cocaïne, bah, ça fait un marché effectivement attractif
pour les mafias. Et autre annonce de Dupond-Moretti, la création d'un parquet national dédié à cette lutte contre le crime organisé. On va en reparler dans un instant, dans la seconde partie des informés. À tout de suite.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et nous informer dans le studio de France Info ce dimanche soir, Rachel Gara-Valcarcel, journaliste politique à 20 minutes, Émilie Zapalski de l'agence de communication Émilie Conseil, Daïk Audoui, journaliste à France Info Télé et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix. On continue à parler de ces annonces dans la tribune dimanche d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pour mieux lutter contre la criminalité organisée avec, entre autres, la création d'un parquet national qui serait dédié sur le modèle des parquets national financiers ou antiterroristes. La question d'Aïk Odoui, ce serait de savoir comment il s'inscrirait avec d'autres juridictions qui existent déjà aujourd'hui.
L'idée, c'est que ça prendrait un peu le pouvoir. Ça serait un peu au-dessus des juridictions régionales, même si on l'a bien compris dans l'interview, Éric Dupond-Moretti dit qu'il ne s'agit pas de supplanter celle-ci. Alors moi, je suis pas spécialiste pour la justice, je vais pas vous dire si c'est plus efficace, j'ai tendance à vous dire que oui, si on centralise un peu toutes les informations, c'est peut-être plus efficace. Ce qui est plus intéressant d'un point de vue politique ou de communication, c'est l'usage d'une marque, parquet national. Ben voilà, c'est identifié par les Français qui connaissent le parquet national financier et le parquet national, surtout, contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est un ancien responsable du parquet national terroriste qui conseille Éric Dupond-Moretti sur ce sujet-là. Donc voilà, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'usage de ce terme qui, je pense, parle à l'opinion et la rassure ou la conforte dans l'idée que oui, c'est efficace.
Rachel Gara-Valcarcel.
Mais surtout que le parquet national terroriste et le parquet national financier ont cette image d'efficacité, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se souvient des magistrats médiatiques entre guillemets lors de la vague d'attentats au milieu des années 2010, et puis le parquet national financier sort quand même régulièrement des affaires, et il y a quelque chose de confiance qu'on peut avoir là-dedans. Alors est-ce que ce sera la même chose pour celui-ci? Il faudra bien voir, mais en tout cas on mise sur une marque qui a bien marché, ça c'est vrai, je suis d'accord.
Sur la communication, Émilie Zapalski.
Oui, mais je pense que c'est
un bon point, tiens, pour le gouvernement.
En tout cas,
fois,
c'est un sujet qui est incontournable, la sécurité et puis la lutte contre ces trafiquants. On voit bien que, encore une fois, le RN est très loin devant dans les sondages et c'est des sujets de prédilection pour eux. Donc forcément, le gouvernement se doit de monter sur ces sujets-là, de montrer aux Français qu'il peut être efficace là-dessus. On avait un Gérald Darmanin qui était très offensif sur le sujet qu'on entend un petit peu moins, qui présentait souvent les objectifs, un peu moins les bilans. On a un Dupond-Moretti qui monte sur ce sujet-là là avec sa partition, donc sa cible particulière. Je pense que c'est important. Je suis pas sûre que même avec la marque Parquet PNCO qu'on puisse avoir quelque chose qui marque des points. C'est terrible parce que c'est une espèce de course perdue d'avance avec l'ERN qui est pas aux manettes et qui peut promettre tout ce qu'il veut, et puis un gouvernement qui essaie, je dois le dire, de traiter le sujet aussi bien que possible, et voilà, qui va pas marquer les points pour autant. D'ailleurs, on a entendu Bruno Le Maire dire que si Marine Le Pen était au pouvoir, puisqu'il y a des sondages qui sortent pour 2027 hein, déjà, qui la mettent en tête, Bruno Le Maire dit ça serait financièrement, culturellement, économiquement complètement une catastrophe pour la France. Mais même ça, ça serait la politique du pire. Mais même ça, on sait même pas si ce que les Français entendent quand ils disent ça. Peut-être qu'ils entendent, bah oui, mais on n'a jamais essayé. Et globalement, les résultats de ces 7 ans de pouvoir chez Macron, ça a pas donné forcément économiquement, financièrement et culturellement des bonnes choses. C'est un peu une course perdue d'avance.
Pour revenir sur ces annonces, Jean-Christophe Ploquin, on a entendu aujourd'hui des magistrats ou d'anciens magistrats parler notamment de la Junalco qui existe depuis 2020, une autre institution déjà chargée de lutter. Voilà, est-ce qu'il y avait besoin aujourd'hui de faire ces annonces, ou est-ce qu'effectivement c'est quelque peu en lien notamment avec les européennes et la politique sécuritaire, ce qu'on disait tout à l'heure?
Ouais, je ne suis pas non plus spécialiste police-justice, donc effectivement dans cet organigramme en quelque sorte et l'organisation de la justice en France, j'ai pas les éléments d'analyse. Je rejoins ce que disait Daïk, c'est-à-dire parquet national financier. On voit bien l'enjeu d'une forme de centralisation et de recherche d'efficacité. J'ai lu en lisant l'interview dans la tribune.
Des questions d'indépendance liées au parquet.
J'ai été amusé en voyant qu'Éric Dupond-Moretti disait presque du bien du parquet national financier, quand même une institution avec laquelle il a eu des gros problèmes.
Ce qui est une information.
Et donc voilà, bon, mais blague mise à part, on voit bien qu'il y a un enjeu de souci d'efficacité. Moi, je évidemment que ça s'inscrit dans une perspective politique extrêmement importante, mais on peut voir aussi dans la durée que l'enjeu de la lutte contre le trafic de drogue est aussi un objectif fort. Emmanuel Macron a vraiment, dès son premier mandat, fait de Marseille, alors dans la globalité, évidemment, pas seulement le trafic de drogue, mais dans la globalité, cette métropole, le souci de lui redonner du dynamisme, et la lutte contre le trafic de drogue en fait partie. Il y a quand même eu des renforcements d'effectifs de police très importants et de justice aussi. On sait que le budget de la justice augmente
L'évoquait rapidement tout à l'heure, mais on est vraiment dans la suite, on va dire, judiciaire de ces opérations PlaceNet,
oui, PlaceNet XXL. Ce que je veux décrire, c'est qu'il y a quand même, au-delà de ces opérations ponctuelles, il y a quand même, depuis plusieurs années, me semble-t-il, quand même, un investissement fort sur ces sujets-là. Après, est-ce qu'elles sont efficaces et est-ce que les Français les perçoivent? C'est dans ce sens-là, c'est le rocher de Sisyphe, je pense.
C'est même un risque, hein, en termes de communication, d'avoir tout misé sur Marseille, cette espèce de laboratoire pour l'école, pour la drogue et tout ça, parce que les résultats sont pas forcément encore à la hauteur de ce qui est annoncé. En tout cas, c'est une volonté de dire, bah voilà, concrètement, on va voir si ça marche ou pas, avec cette grande opération de communication et Emmanuel Macron qui est très souvent à Marseille, il aime beaucoup Marseille. C'est risqué, mais c'est intéressant d'avoir ce suivi, on va dire, concret sur le terrain.
Et je pense, que le trafic de drogue, on sait aussi qu'il se répand de plus en plus dans les villes moyennes, dans des petites villes en France. Peut-être que la constitution de ce parquet national financier aussi, c'est pour pouvoir avoir plus un suivi beaucoup plus fin, finalement, sur ces multiples réseaux.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
C'est un mouvement qui dure aux États-Unis. De nombreux campus universitaires de prestige voient leurs étudiants se mobiliser pour Gaza et contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Des manifestations et occupations qui parfois dérapent avec des propos et des slogans jugés antisémites. En France, c'est le site de Sciences Po Paris qui a été occupé ces derniers jours par des étudiants pro-palestiniens avec le soutien d'élus ou de candidats de la France insoumise comme Rima Hassan qui s'est rendue sur les lieux. Ce dimanche, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, assure elle que son parti soutiendra tout nouveau blocage.
Je veux saluer la jeunesse magnifique de ce pays et qui justement fait preuve d'une non-indifférence à ce qui se passe dans le monde, qui je trouve est admirable. Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Et à chaque fois que des étudiants, le peuple se mettra en mouvement pour leurs droits ou pour soutenir l'égale dignité des êtres humains, à chaque fois nous serons là.
La députée insoumise Mathilde Panot. Jean-Christophe Ploquin, dans votre journal La Croix, vous proposez demain un reportage sur ces campus américains. Le parallèle entre ce qui se passe là-bas et en France, pour vous, est évident ?
Oui, en tout cas, on raconte effectivement ce qui se passe sur le campus de la USC, donc l'Université de l'État de Californie. Effectivement, ce qu'on a vu dans de nombreuses autres universités, à Boston, à Columbia, à Austin, dans le Texas, on voit ce mouvement de jeunes qui plantent des tentes, qui s'installent sur des endroits du campus et avec effectivement une sensibilité finalement à la question palestinienne qui est relativement inédite aux États-Unis. Donc, est-ce que ça renvoie ensuite finalement à la situation en France ? Je dirais oui par un fil qui est en fait le fait qu'il y a un courant de pensée ou des courants de pensée au niveau international et donc aussi en France qui finalement un courant de pensée qu'on va décrire comme post-colonialiste, comme anti-impérialiste, et ce sont souvent alors des jeunes ou des moins jeunes, mais qui vont vraiment raisonner en mettant en opposition le Nord et le Sud, le Nord, l'Europe, les États-Unis et Israël, du fait finalement de cette guerre à Gaza, finalement est rangé dans le camp du Nord, dans le camp colonialiste et dans le camp impérialiste. Et donc c'est cette trame finalement, c'est cette logique que l'on entend à la fois dans le discours de Lula, par exemple, au Brésil, où les dirigeants sud-africains, c'est exactement ce qu'ils disent, mais on le trouve aussi, c'est repris finalement dans les campus nord-américains et par des éléments, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, est aussi dans ce narratif-là, en quelque sorte. Donc oui, il y a bien un fil rouge, même si après, dans chaque pays, il y a des logiques qui sont propres. Et ce qui est assez frappant quand même en France, c'est que effectivement, c'est plutôt à Sciences Po que ça se passe, et que dans les campus des autres universités, pour le moment, on n'a pas vu ces mouvements, ou en tout cas pas avec cette intensité.
Est-ce que, Rachel, vous partagez cette ligne de lecture sur la fracture Nord-Sud ?
Oui,
C'est pas moi qui l'a fait, c'est vraiment une perception, mais pardon, qui est extrêmement puissante et qui fait qu'aujourd'hui, même de façon plus globale, l'Europe, du fait qu'elle est plutôt du côté d'Israël et elle est accusée de ne pas assez dénoncer ce qui se passe à Gaza, l'Europe, finalement, est rangée...
Avec des disparités au sein de l'Europe.
Ouais, est rangée vraiment aussi dans ce sud qui est un peu très critiqué, dans ce nord qui est très critiqué aussi.
Rachel Garamal-Kassel.
Oui, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. On parlait des campus américains, mais au fond, il se passe quelque chose qu'on voyait déjà pendant la guerre du Vietnam, par exemple.
Et puis ça remonte un peu.
Ça remonte un peu, mais au fond, c'est déjà la question de l'impérialisme, la question du Sud aussi, etc.
Avec à la fois un soutien aux Gazaouis et en même temps une critique du gouvernement de Joe Biden, de la présidence de Joe Biden dans son soutien à Israël.
Ouais. Complètement. Vous avez toute une partie de la jeunesse, je dis bien une partie de la jeunesse, que la jeunesse c'est beaucoup de choses, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France, qui se politise sur la question de l'égalité. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être décolonialiste pour être indigné de ce qui se passe à Gaza. Il y a beaucoup de gens qui se politisent sur la question de l'égalité des discriminations et qui se retrouvent à être criminalisés dans leur lutte, dans leur protestation. Vous disiez qu'il y avait des critiques sur des slogans antisémites, etc. On sait bien que dans les luttes pro-palestiniennes, il y a des gens qui s'en servent pour faire passer des messages antisémites ou anti-sionistes. Mais dans les faits, la plupart des gens qui sont arrêtés par les policiers américains, ils sont relâchés sans charge. Et ça, c'est quand même un grave problème dans un état de droit que vous ne puissiez pas manifester tranquillement, en fait.
Là, dans le cadre des... On n'est pas dans le cadre de manifestations. Dans les campus américains et à Sciences Po, la semaine dernière, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, dans les campus américains, vous avez des campements. Donc on n'est pas dans des manifestations. Ce n'est plus des questions de liberté d'expression, c'est des questions d'ordre public.
D'accord, mais ils sont relâchés sans charge.
Ceux qui sont relâchés sans charge, ce sont les étudiants qui appartiennent à l'université. Il y a un distinguo qui est fait dans le travail des forces de l'ordre aux États-Unis entre les étudiants qui appartiennent à l'université et ceux qui viennent d'ailleurs pour dormir dans
pour
les
occuper
tentes.
Les lieux.
C'est là la différence quand même avec la France, c'est que la France, il n'y a pas de tente nulle part, et il y a juste le bâtiment de Sciences Po qui a été occupé.
Une partie du bâtiment.
Parce qu'il y a aussi un agenda particulier des insoumis qui veulent faire monter la pression avant l'audition mardi de Rima Hassan. D'ailleurs, information de cette fin de dimanche après-midi, demain, Mathilde Panot et Manuel Bompard vont se rendre à Matignon. Ils vont être reçus par Gabriel Attal qui les a convoqués ou les a invités. Je ne sais pas, j'ai
faut
pas
rappeler
d'ailleurs
qu'on oublie ce qui s'est passé avec Rima Hassan en quelques mots.
Rima Hassan, ben elle doit répondre à la justice
d'apologie du terrorisme. Candidate en 7e position sur la liste de la France insoumise.
Mathilde Panot également doit répondre
du même
charge. Alors qu'elle est élue.
Chef de file des députés, communiqué du 7 octobre, le fameux communiqué.
Voilà. D'accord. Donc, dans ce contexte français aussi, et dans le contexte américain, il y a quand même un contexte politique qui est lié aux élections américaines. Donc là aussi, c'est ce qui ressemble entre la France et les États-Unis, c'est qu'il y a un contexte de politique derrière et d'instrumentalisation éventuelle de camps, d'ailleurs pour ou contre, par rapport à ce conflit-là. Qui résonne avec les élections dans ces deux pays.
Émilie Zapalski.
Oui, moi je trouve que c'est odieux ce que fait la France insoumise, en fait, d'instrumentaliser à ce point ce conflit et d'en arriver à ces méthodes. Alors je ne sais pas si ça vaut pour le coup l'accusation d'apologie du terrorisme, mais en tout cas, je trouve que ça déforme évidemment les manifestations quelque part des étudiants, parce que on va vite vers de l'antisémitisme, et on a entendu quand même Jean-Luc Mélenchon aller très loin de ce côté-là, et c'est avec des pensées électoralistes pour cette population de musulmans. Moi, je trouve ça terrible ce qu'il fait, parce que ce qui se passe depuis le début du 7 octobre, c'est beaucoup de difficultés de parler sur ces sujets-là sans être tout de suite relevé d'un camp. Et je trouve que c'est affreux de se dire, on peut pas à la fois dire, oui, Israël a été attaqué, c'est une attaque terroriste comme on a eu en 2015, c'est horrible, et oui, en même temps, on peut penser aux Gazaouis qui vivent depuis plusieurs années des choses, une existence à prison à ciel ouvert, et ils ont des répercussions avec la situation. Et Israël va en effet parfois très loin, puisqu'il est condamné, le pays est condamné à des sanctions internationales, et il y aura sûrement des affaires de justice à voir là-dedans. En France, ça a été très dur de dire ça. J'ai l'impression qu'on rééquilibre maintenant, mais ça a été très long. On est quand même fin avril. Au début, on n'avait pas le droit.
Est-ce que c'est nouveau, ça, Rachel Garabal-Kerzel?
Ah bah, moi, je pense qu'on
a... Je vois pas bien où on rééquilibre. J'ai l'impression que le débat est toujours extrêmement compliqué sur cette question, quand même,
Je pense que au niveau du gouvernement, il y a eu un rééquilibrage parce qu'il y a eu une position, une posture très pro-israélienne au départ, notamment incarnée par la présidente de l'Assemblée nationale qui est tout de suite allée sur place, qui a dit soutien inconditionnel à Israël, peut-être un peu tôt. Et Emmanuel Macron, on a senti dès son déplacement qu'il a voulu rééquilibrer. Ça a été difficile. Et maintenant, on commence à parler de la situation, notamment humanitaire, à Gaza. On en a parlé récemment et on peut en parler sans être affiché comme protecteur du terrorisme du Hamas. On n'en est peut-être pas là, mais moi, je trouve qu'on peut aborder le sujet, alors qu'avant, on nous disait « vous êtes pour les terroristes, vous vous rendez pas compte ». Et je pense que ce que les étudiants portent là, c'est déformé à cause de la France insoumise, parce qu'ils en remettent une couche du « ah ben, puisque vous défendez Gaza, ben, vous êtes fortement antisémite ». Je trouve que c'est odieux, parce que ça rend encore plus les discussions difficiles.
On va poursuivre le débat et marquer une dernière pause dans ces informés.
20h, 21h, les informés. Victor Matet.
Le sujet de ces manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines et en France, sur le campus de Sciences Po Paris, ces derniers jours, on parlait de ce sujet sensible, d'accusations notamment de propos ou de faits antisémites. Sur France 5, vendredi, Elisabeth Badinter dénonçait l'antisémitisme de ces étudiants de Sciences Po. Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui le ministre de la Justice, dénonçait lui l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon. On en parlait il y a quelques instants, qui selon lui met le feu à l'université. C'est une lecture aussi clair que ça, Rachel Garabal-Kerzel?
Ben non, moi je trouve que c'est catastrophique de mettre tout le monde dans le même sac. Encore une fois, s'il y a des slogans, s'il y a des panneaux, s'il y a des affiches antisémites, s'il y a des insultes antisémites, il faut évidemment que ce soit condamné et durement puni. Mais mettre toute manifestation pro-palestinienne dans le sac de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, moi je trouve que c'est très très grave.
Daïko Doui?
Oui, ben il y a le cas de figure sur les propos de Rima Hassan et de Mathilde Panot qui sont dans le débat public et qui...
Leurs propos sont pas antisémites,
non,
ni même antisionistes.
Non, mais justement, non, mais c'est l'apologie du terrorisme. C'est pour revenir pour puisque
en fait, ouais.
Éric Dupond-Moretti, il a dit voilà, il a pas, par exemple, Éric Dupond-Moretti, c'est compliqué pour lui, mais il a pas dit qu'il y a pas matière à ne pas poursuivre. voilà, les propos, voilà, elle s'exprime dans le cadre d'un communiqué sur l'attaque du 7 octobre, où elle ne dénonce pas comme terroriste, mais elle dit pas « vive l'attaque » ou « c'est formidable ». Voilà, donc on est dans des choses très compliquées. Après, il y a les là où il y a l'antisémitisme, c'est pas forcément dans les slogans, dans ce qui se passe autour des campus. Et là, j'oublie Mathilde Panot, c'est quand on refuse l'accès à des personnes de confession juive.
Ce qui s'était passé au mois de mars, voilà.
Parce qu'il s'était passé.
Ce qui a été rapporté, exactement. Voilà. Enfin, ce qui a été polémique, pardon.
Mais après, il y a l'antisionisme. Tout ça, c'est très compliqué. Mais bon, la justice, bah, justement, elle va auditionner Rima Hassan, elle va auditionner Mathilde Panot. On va voir si elle va poursuivre, parce qu'en fait, c'est juste un premier contact, et puis dire, bon, bah, écoutez, on a...
C'est pas rien non plus.
C'est pas rien non plus, bien sûr. Mais après, elle va dire, oui, mais en même temps, alors, c'est des associations qui portent plainte. Ouais. En même temps, si vous poursuivez pas, vous dites que vous ne tenez pas compte du souci. C'est très compliqué, voilà.
D'accord. Jean-Christophe Floquin.
Ouais, d'abord, effectivement, il y a énormément d'émotions, et on comprend pourquoi. C'est-à-dire que l'attaque du 7 octobre, c'est quand même une... Ça crée un choc émotionnel épouvantable. Et ensuite, la façon dont la population de Gaza a été attaquée, finalement, par l'armée israélienne, qui n'a pas seulement attaqué le Hamas, mais qui, pour attaquer le Hamas, a attaqué tout le monde, et a rasé des villes entières, ça crée une émotion aussi considérable. Donc c'est un peu émotion contre émotion. Il me semble que dans l'enjeu de l'antisémitisme, je me demande s'il n'y a pas, en fait, la question du positionnement par rapport au Hamas. Qu'est-ce qu'on dit sur le Hamas? Qu'est-ce que LFI dit sur le Hamas? Qu'est-ce que d'autres disent sur le Hamas? Et selon le discours que vous avez, peut-être que vous pouvez être accusé d'antisémitisme. Mais c'est très compliqué à faire. Le Hamas, pourquoi est-ce que le soutien au Hamas, le soutien à un mouvement terroriste. C'est quand même le soutien à un mouvement qui dit dans sa charte, on veut reconquérir, on veut chasser Israël du Jourdain à la mer. Donc, si vous soutenez le Hamas, vous soutenez aussi des propos comme ça. Et donc, je pense que dans ceux qui sont très sensibles en ce moment à la cause palestinienne, je crois qu'il faut qu'ils fassent très attention à ça. C'est que le Hamas, d'abord, ne représente pas tous les Palestiniens, très loin de là. Et dans la bande de Gaza, il fait plutôt l'objet d'un rejet des Gazaouis, et on comprend pourquoi, parce que si tout a été détruit, c'est quand même à cause de l'attaque du 7 octobre. Et donc, je pense que c'est là, il y a là, mais inversement, je suis tout à fait d'accord pour dire que il faut pas lancer l'accusation d'antisémitisme à tout va, même à des gens qui soutiennent quelque part le Hamas. Il faut vraiment avancer très prudemment.
Un tout petit mot pour conclure, Émile Zapalski.
Bah, je pense qu'il faut continuer dans une voie où, comme vous le dites, d'expliquer vraiment que c'est pas appartenir à un camp que de soutenir un discours et l'autre, quoi, de penser aux deux populations finalement. Et je trouve quand même si Rachel, c'est vrai que c'est encore il y a encore du travail pour le rééquilibrage. Mais je trouve que déjà, la parole, on peut en parler un petit peu. Alors, pas quand c'est utilisé.
C'est difficile,
ouais,
quand même.
Mais là, je trouve que la France insoumise rajoute des difficultés.
Elisabeth Badinter aussi.
Oui, tout à fait, des deux côtés. Ça, je trouve que c'est pas des bonnes personnalités qui interviennent dans le débat public d'une manière efficace. Je pense qu'ils devraient nuancer leurs propos et éviter de jeter de l'huile sur le feu.
Et le débat se poursuivra après l'émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé ce soir aux informés. Les informés qui, bien sûr, reviennent demain matin sur France Info. Très bonne soirée.